Nous sommes le jeudi 4 janvier 2018 et il est arrivé, celui qui met des pixels et des polygones dans votre petit déjeuner, celui qui rend votre matinée en ultra HD, voici venu l'heure de la revue de presse JV. Bienvenue à toutes et tous, bienvenue dans votre podcast quotidien dédié à l'actu jeux vidéo. Moi, c'est Bruno Roca, ravi de vous accueillir dans cette édition du jeudi qui, je l'espère, vous donnera entièrement satisfaction. Car ici, vous le savez, on vous bichonne à la mode sexy câline. Que vous soyez dans votre salle de bain, votre cuisine, votre voiture ou dans un bon vieux RER horrifique comme il faut. Bref, où que vous soyez, je vous tends les bras et vous dis « Allez, ça suffit les conneries, on attaque l'émission maintenant !» Il est arrivé le classement des sites internet dédiés aux jeux vidéo, le classement donc de janvier 2018 fourni par Alexa Internet. Alors je sais que le classement Alexa ne fait pas l'unanimité, on peut revenir effectivement sur le système de classement, mais enfin il permet je pense quand même de prendre un petit peu la température de ce qui se passe sur l'internet vidéoludique français, même si cette formule est absolument abominable. En premier, bon alors je vous la fais courte, hein, jeuxvideo.com, ça je pense que ça n'étonne personne, très loin au-dessus des autres, vous le savez, c'est le premier site jeux vidéo d'Europe, donc là-dessus hein, on fera pas les étonner. En deuxième, on trouve GameCult, en troisième, Millennium, en quatrième, Gameblog, en cinquième, Jeux Online, en sixième, Super Solus, en septième, Jeux Actu, en huitième, Eclipsia, en neuvième, Judge Hype, je ne connais pas du tout, et en dixième, GamerGen. J'aimerais savoir, parce que bon, un classement dit comme ça, ça n'a pas forcément un intérêt absolument incroyable, mais c'était surtout l'occasion, je dirais même le prétexte, pour savoir, au-delà des gros sites hein, tels que GameCult, jeuxvideo.com, Gameblog, etc., est-ce que dans ce top 10, ou même beaucoup plus loin, il y a des sites que vous visitez régulièrement, sur lesquels vous allez puiser les informations qui vous intéressent, et qui ne sont pas du tout représentés dans ce classement des meilleures audiences. Ça m'intéresserait vraiment de le savoir, et puis je suis toujours à la découverte de sites de qualité, pour pourquoi pas les citer dans la revue de presse JV, voyez-vous. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Agartha, un Hibernatus de la Dreamcast bientôt décongelé, c'est Achille Micral qui nous dit ça sur l'excellent ROM Game hein, que je vous conseille à nouveau à toutes et tous. Qu'est-ce que nous dit Achille? Qu'est-ce que c'est que cet Agartha? Achille nous dit que comme beaucoup de jeux Dreamcast en cours de développement à l'époque, Agartha fut annulé lorsque Sega annonça la fin de production de la console en 2001. Cet avortement n'aida pas le studio de Frédéric Reynal, le studio No Cliché, qui fit faillite assez rapidement. Le jeu qui devait succéder, hein, nous dit Achille, à Toy Commander, restera dès lors dans les limbes. Jusqu'à l'été 2017, où il fit une brève apparition sur eBay sous la forme de GD-ROM, prouvant ainsi qu'Agartha avait bien franchi le cap du concept et qu'une version jouable de l'aventure était congelée quelque part. Aujourd'hui, un groupe de passionnés s'est approprié le code d'Agartha et indique vouloir le publier en ligne le 15 janvier prochain, semble-t-il avec l'accord de Frédéric Reynal, qui est en outre aussi le papa de Alone in the Dark, je le rappelle. Frédéric Reynal, comme nous dit Achille, qui n'est pas le dernier quand il s'agit de faire revivre son glorieux passé. Bien qu'on ignore hein, actuellement quelle partie du jeu sera jouable, on peut s'attendre, nous dit-on, à faire une petite balade dans les paysages enneigés du jeu horrifique qui vous placera dans la Roumanie des années 20. A l'origine, nous dit RomeGame, l'intérêt de ce survival horror devait résider dans le lien unissant le joueur à son avatar. Le jeu devait obliger le joueur à faire des choix moraux pour l'emmener dans divers scénarios basés sur ses décisions. Bref, je vous invite à lire la suite de cette news très intéressante hein, sur RomeGame, avec tous les liens qui vont bien vers le projet et les auteurs de ce projet. En tout cas, tout ceci est très intéressant, et moi qui adore les jeux d'horreur, vous savez que ça fait partie de mes genres de prédilection, et ben je surveille cet Agartha, ce revival, cette renaissance d'Agartha, ce retour d'entre les morts même, pourrait-on dire, avec une grande impatience et une grande curiosité. Les 30 ans de Final Fantasy, hein, qu'on a fêté il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours. Vous savez, je vous en ai parlé. Et d'ailleurs, spécifiquement pour les tipeurs, hein, lors d'une édition du samedi, où vous le savez, le samedi, il y a la rubrique revue de presse rétro, où donc j'étais revenu sur des coupures de presse hein, concernant essentiellement l'accueil d'FF6 et d'FF7. Pourquoi je vous reparle de Final Fantasy? Eh bien, figurez-vous que le dernier numéro de Edge, hein, le fameux magazine britannique de référence, a célébré, malheur en grande pompe, les 30 ans de Final Fantasy avec un énorme, gigantesque dossier exclusif dans lequel les principaux acteurs de la saga se livrent comme rarement. J'ai épluché ce numéro, hein, j'en ai traduit pas mal de passages rien que pour vous. Je me suis concentré sur les passages où Hironobu Sakaguchi, hein, donc le papa historique de Final Fantasy, les passages donc où il a pris la parole. Si j'étais revenu sur Kitase, Nomura et consorts, là, il y en avait pour 3 heures d'émission. J'ai extirpé des déclarations donc exclusives hein, d'Hironobu Sakaguchi qui nous éclairent. J'ai pris vraiment quelques périodes, puisque c'est vraiment toute la période de Final Fantasy, donc du 1er jusqu'au 15 qui est cité. Donc comme je vous le disais, je ne pouvais pas tout dire. Je me suis concentré sur les tout débuts, sur FF6, un petit peu FF7, et le départ de Sakaguchi de chez Square. Quel que soit le sujet, ça permet de remettre en perspective, et surtout ça nous apprend quelques petites choses. En tout cas, moi, j'ai appris 2-3 anecdotes que je ne connaissais pas. Alors, je ne sais pas si vraiment Sakaguchi les a livrées en première exclusive dans ce numéro d'Edge. En tout cas, il y en a certaines que je connaissais, bien sûr. Mais d'autres, vous verrez notamment FF6, une anecdote que je ne connaissais pas. Et pourtant, Dieu sait que j'ai étudié le sujet. Bref, sur les débuts, Sakaguchi, justement, revient sur l'ambiance hein, qui a drapé la création du premier Final Fantasy. Et là, ça tord un petit peu le coup, vous savez, à ce mythe du jeu qui avait été fait pour sauver la boîte. Alors, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça. En tout cas, je cite Sakaguchi, donc, qui dit que Square avait une situation financière très, 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 très compliquée. Donc là, c'était avant la conception de Final Fantasy, hein, je le précise. Monsieur Sakaguchi nous dit « Nous avions essayé de faire des jeux pour le Famicom Disk System, mais nous n'avions pas les moyens pour rivaliser avec les grandes entreprises. » Donc le boss de Square, hein, de l'époque, a rassemblé les 4 game directors de l'entreprise et nous a demandé à chacun de faire une proposition de jeu, nous dit Sakaguchi. Les projets devaient être ensuite soumis au vote des employés pour savoir lequel aurait le plus de chances d'avoir un succès commercial. Je voulais faire un RPG depuis des années, et ce, depuis que j'avais joué à Ultima et Wizardry, sur l'Apple 2. Mais Square était concentré sur la réalisation de jeux Famicom, et sans fonction de sauvegarde sur la cartouche, je ne voyais pas comment faire fonctionner ces jeux. Puis, le Dragon Quest d'Enix est arrivé, et il utilisait un ingénieux système de code pour sauvegarder. C'était primitif et simpliste, certes, mais ça a marché. Alors j'ai pitché Final Fantasy à la compagnie. J'ai dit à l'équipe que s'ils sélectionnaient mon projet, on en vendrait plus que Dragon Quest. Ils ont tous ri. Hironobu Sakaguchi continue en disant « Malgré tout, mon responsable m'a donné le feu vert. Je ne pouvais réaliser le jeu qu'avec 4 employés de mon équipe. Heureusement, ils étaient tous très talentueux. Nous avons terminé le développement en 10 mois et ça a été un gros succès. 400 000 cartouches furent produites en tout. » Je ne sais plus à quel moment je me suis rendu compte que la compagnie était alors sauvée. Je n'ai jamais vu les rapports financiers, mais l'année suivante, nous avons sorti la suite de Final Fantasy. Et là, j'ai su que nous étions vraiment en sécurité. Voilà ce que Sakaguchi a dit, à mon sens, hein, de plus important, sur les débuts de la saga. Sur FF6, par rapport à l'aspect choral du titre, hein, il précise « Quand est venu le temps de réaliser le 6e épisode, je voulais aborder l'histoire avec énormément de protagonistes. » Faire quelque chose de complètement différent. J'avais vu ce type d'approche dans le manga sportif, hein, qui était sorti dans les années 60, je précise, Star of the Giants. Alors, Star of the Giants, j'ai fait mes petites recherches, hein, ça s'appelle Kyojin no Oshi en VO, et ça parle de baseball. Et donc, Sakaguchi nous dit, dans ce manga, chaque membre donc, de l'équipe devenait un personnage principal à son tour. Je voulais faire quelque chose de similaire, mais dans l'univers de la fantasy. Ça, vous voyez, je l'ai tweeté hier, hein, la couverture, une des couvertures de ce manga. Ça, je ne le savais pas. Je ne sais pas s'il l'a dit avant. Alors, peut-être que des experts me diront qu'il a déjà évoqué ce manga, peut-être auparavant, dans une interview, peut-être dans un magazine japonais. En tout cas, moi, je ne l'avais, malgré toutes mes recherches, jamais lu. C'est assez impressionnant de voir que le côté choral, qui est l'une de ses forces, que l'inspiration vient d'un manga sportif, je trouve ça assez génial. Sur Final Fantasy VII, Monsieur Sagaguchi nous dit « J'ai toujours cherché à vendre plus de jeux sur les marchés américains. Je voulais conquérir les États-Unis, mais rien de ce que nous avions essayé avant n'avait fonctionné. » Durant l'ère du pixel art, donc il sous-entend l'ère 16 bits, les RPG avaient la réputation d'être trop compliqués. Mais tout a changé avec Final Fantasy VII. Sur son départ de chez Squaresoft, il dit « Bien sûr, la raison de mon départ est bien liée à l'accueil du film Final Fantasy, les créatures de l'esprit, hein, pour ceux qui s'en souviennent. Mais pas seulement, nous dit-il. Durant la période FF7, j'ai dû abandonner la programmation et je suis passé à la production et à l'aspect business de la chose. Ce n'était pas pour cela que j'avais rejoint cette industrie à l'origine. L'échec du film a donc été l'occasion pour moi de repartir de zéro et de revenir à ces choses pour lesquelles j'étais entré dans l'industrie du jeu vidéo. » Et à la fin de ce dossier, il conclut chaque fois... Alors, je trouve vraiment ce passage formidable, j'avais hâte de vous en faire part. Chaque fois que nous terminions un Final Fantasy, on faisait une grosse réunion avec toute l'équipe en vue d'un gros débrief. Ensemble, nous regardions l'ending du jeu et nous portions un toast avec nos coupes de champagne à la main. Nous mettions tellement d'énergie dans le projet, c'était un moment de grande émotion. Je me souviens de chacune de ces réunions. Je ne les oublierai jamais. C'était ces passages-là que je voulais absolument vous rapporter sur les déclarations de Sagaguchi dans ce numéro exceptionnel d'Edge. Si vous êtes vraiment ultra fan, allez-y, 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 puisqu'il y a des documents d'époque, des très belles pages avec des illustrations magnifiques. Je conseille ce numéro à tout fan de Final Fantasy qui se respecte. En tout cas, j'avais vraiment à cœur de vous rapporter ces propos-là. J'espère que vous avez apprécié. Voilà. Avant de se quitter, je vous propose une petite brochette de news que l'on pourrait qualifier par les restes de l'actualité. Et dans ces restes de l'actualité, il faut savoir que Monsieur Aonuma, le producteur, le big boss de Zelda maintenant depuis maintes et maintes années, a annoncé ceci concernant l'avenir de la saga Zelda. Je ne peux pas parler pour les autres développeurs de jeux, mais pour moi, et spécialement en ce qui concerne la série des Zelda, l'incroyable sensation de liberté que ce jeu offre est importante et explique, selon moi, son succès. Ce niveau de liberté doit être maintenu dans les prochains volets. Et ça, je suis complètement d'accord avec lui. Il faut rester dans cette philosophie de l'extraordinaire Breath of the Wild. Sachez également que Secret of Mana, le remake, qui est prévu le 15 février prochain sur PS4, PlayStation Vita et Steam, sortira bien en Occident, en version boîte. Ça y est, c'est confirmé, on le savait. On s'en doutait, grosso modo, mais en tout cas, c'est officiellement confirmé. Rocket League, le jeu de football où on remplace les joueurs par des grosses voitures, qui est super rigolo, a officiellement atteint les 40 millions de joueurs depuis son lancement en juillet 2015. Et donc, le succès ne se dément pas, c'est vraiment un carton de malade. Quant à Monster Hunter World, PCiste, ne pleurez pas, mais le gros jeu de Capcom qui va débouler le 26 janvier, on en parlait hier encore, sur PlayStation 4 et Xbox One, ne sera pas prévu avant cet automne, avant l'automne 2018. C'est le producteur Ryozo Tsujimoto qui l'a annoncé, une mauvaise nouvelle pour les possesseurs de PC. Donc il faudra prendre votre mal en patience. Enfin, parlons de Super Mario Odyssey, qui est absolument extraordinaire. Je vais pas encore vous saouler avec ça, mais enfin, quel chef-d'œuvre, mes amis. Figurez-vous que Mario Odyssey est déjà l'un des titres les plus speedrunnés de l'histoire du jeu vidéo, malgré sa sortie qui date du 27 octobre 2017, donc c'est très très récent. Faut savoir que le hit de Nintendo a déjà franchi la barre des 1000 runs sur le site de référence en la matière, speedrun.com. On n'imagine même pas ce que ça va donner dans quelques mois, dans quelques années. En tout cas, il y a déjà des speedruns en vidéo qui sont complètement fous. Je ne sais pas comment les gars font ça, mais enfin, c'est hallucinant. Bref, bravo à Mario, dont le retour est absolument cataclysmique. Nous arrivons déjà au moment fatidique de nous quitter. Mais ne vous inquiétez pas, vous le savez, on se retrouve dès demain, peu avant 7h, sur les mêmes flux, sur les mêmes portails, les mêmes adresses. Vous commencez à connaître sur iTunes, sur PodCloud, sur Deezer, sur YouTube, sur Twitch. Vous retrouvez la revue de presse JV partout, H24 et 7 jours sur 7. Tous les liens qui ont été évoqués, tous les articles qui ont été évoqués dans cette émission, tac, les liens, vous les retrouvez dans la description de cet épisode. Pour vos remarques, vos réactions, n'hésitez pas à venir me parler sur le compte Twitter de l'émission, @revue de presse JV, tout collé, la page Facebook du podcast et sur mon Twitter perso chez Bruno. D'ailleurs, je fais un petit appel. Si vous tenez un site, un blog, un podcast, une chaîne YouTube, bref, que sais-je, concernant l'actualité Nintendo, j'aimerais savoir si le succès complètement époustouflant de la Nintendo Switch a boosté vos audiences et de quelle manière est-ce que cela a influencé votre ligne éditoriale? Est-ce que ça vous a peut-être remotivé à relancer votre site, votre blog, votre podcast? Dites-moi tout. N'hésitez pas à m'envoyer vos témoignages sur l'adresse mail de l'émission qui est normalement dans la description de l'épisode. Revue de presse JV, tout collé, @gmail.com. Vous le savez, vous avez la possibilité de m'aider à améliorer la revue de presse JV grâce à une page Tipeee. Je vous explique tout sur cette page, tipeee.com/la-revue-de-presse-jv. Vous trouvez le lien directement dans la description de l'épisode. J'ai des conditions peu évidentes et j'ai vraiment besoin de votre aide. Plus de 40 tipeurs m'ont déjà fait part de leur confiance inestimable et je ne les remercierai jamais assez. Vous savez que selon les paliers, vous avez un épisode exclusif chaque samedi, un épisode totalement inédit avec donc des news inédites et une rubrique inédite qui revient sur des vieilles coupures de presse que je pioche dans mes vieux magazines de jeux vidéo des années 90, 80, 2000 et qui résonnent avec l'actualité bien sûr, et aussi la possibilité de m'accompagner au micro lors d'une grande mensuelle. J'aimerais vraiment citer les tipeurs, je les remercie de tout mon cœur. Merci à Romain, Lutherian, Bal42, Antoine, Seb22, Low75, Aza, le Docteur Lacave, Olive, Roi du Bocal, DomDom01, Evolix, Pipoletsu, Forza Pedro, JP Mader, Remix92, Somaz, Graou91, Emmanuel, Paga, Alexis, HXC, Pizza Hunter, Lina Nounette, MachinTruc76, Monsieur A, MacBN, Francois, Mopral, Melkioc, Mister, Haru, Slokoanet, Turtle, Adrien, Nassara, Mike et Fabien. Merci à tous, vous me donnez une force vraiment d'enfer chaque jour. Et sans vous, la revue de presse JV ne serait pas là où elle en est en ce moment. Sur ce, il me reste à vous souhaiter une excellente journée. Bon courage, avec ce temps c'est pas facile mais on s'accroche. Gardez le moral, plein de bisous, à demain. Portez-vous bien, vive la République, vive la France et vive le jeu vidéo, vous ne le savez que trop bien. Allez, à demain, bisous.